Avertissement. Avertissement.
Cette émission
peut contenir des infos.
Ben c'est parti pour une autre émission de Peut contenir des infos. Quand vous entendez ce thème en début d'émission, ça veut dire qu'on est parti pour une grosse heure bourrée d'informations avec l'ami Sébastien Boucher qui est avec moi. Salut Sébastien!
Salut! Ça va être bourré, mais j'espère pas trop. Hop, que ça soit assimilable, on va tenter de passer à travers.
Exactement, c'est comme d'aller au buffet chinois, par exemple. Hein? Ça ne veut pas dire que tu peux te servir tant et aussi longtemps que ça te tente, que tu es obligé que ça te sorte par les oreilles. Tu sais, quand tu roules à terre, là, à force de trop remplir ton assiette, à un moment donné, c'est pas terrible sur l'estomac. On va essayer que ce soit digeste.
Hein? Oui, voilà.
Que vous soyez capable d'assimiler tout ça. Nous aurons tantôt dans la deuxième portion de l'émission une entrevue que j'ai réalisée il y a quelques jours, parce que c'est très occupé à ce temps-ci de l'année pour eux autres. Ils sont en train de mettre la touche, les gens de l'UNESCO. Tu sais ce qu'est l'UNESCO? Tu sais ce que c'est, hein, Sébastien?
Oui. Bien sûr.
C'est l'Organisation des Nations Unies qui se dédie à l'éducation, à la science, à la culture. Alors l'UNESCO chapeaute dans une certaine mesure l'organisation de la Journée mondiale de la radio. Ça a lieu chaque année le 13 février et j'ai eu l'occasion de m'entretenir à ce sujet-là avec une porte-parole de l'UNESCO, Madame Mirta Lorenzo, qui va nous expliquer ce qu'est la Journée mondiale de la radio, pourquoi ça existe et tout ça. Toi, tu vas nous parler un petit peu plus loin d'une matière qui entre dans la composition, entre autres, des pneus.
Oui, le caoutchouc. Ben, c'est parce qu'il est de retour en Amazonie, hein. Il y a eu 100 ans où il n'y a pas eu de fabrication de caoutchouc, ou presque pas là en Amazonie. Et là, c'est de retour pour durer. On a une version durable de ça et je t'expliquerai l'histoire d'un monsieur là qui s'est remis à la fabrication de caoutchouc, puis c'est vraiment intéressant. Donc, c'est de retour en Amazonie.
J'aurais l'occasion... Oui, vas-y, continue.
Ben, puis je voulais le dire que j'ai préparé le quiz aussi pour la fin de l'émission.
Ben oui, absolument.
Mais c'est ça. Puis là, comme l'émission est débutée, je pourrais te dévoiler le thème du quiz parce que je pense que pendant l'émission, tu n'auras pas le temps d'aller faire des petites recherches.
Non, pas vraiment.
Ça va être sur la bière aujourd'hui, Simon.
Ah, sur la bière.
Un quiz sur la bière en fin d'émission.
OK. Intéressant. Je vais vous parler un petit peu plus loin dans l'émission des animaux les plus venimeux de la planète. Ça va être dans la troisième portion. Mais d'entrée de jeu, toi, tu veux nous parler d'une solution qui a été réalisée par des Japonais pour régler un problème qui est loin d'être drôle.
C'est sûr. On parle de fausses couches à répétition. Il y a beaucoup de femmes qui sont affectées par ça. Puis là, il y aurait un traitement qui pourrait être efficace, ça a l'air, pour prévenir ça. Puis, parce qu'on sait qu'une partie des fausses couches serait causée par une réaction auto-immune du corps.
Ah oui.
Puis là, c'est des Japonais, comme tu l'as dit, qui ont montré qu'il y a des médicaments qui existent déjà, mais qui diminuent le risque de faire des fausses couches. Alors, je trouvais ça vraiment pertinent d'en parler. Je pense que ça peut intéresser beaucoup de femmes qui ont été aux prises avec ce problème à répétition. Et ce nouvel espoir, ben en tout cas, on sait que 15% de toutes les grossesses au monde finissent en une fausse couche. C'est quand même beaucoup plus que je pensais, là.
Ben, pas mal, oui.
15% de toutes les grossesses. C'est près de 23 millions de fausses couches par année.
À ce point-là, hein, c'est surprenant. Oui. Eh ben.
Puis là, il y a des experts qui disent qu'une femme sur 10 a déjà souffert d'une fausse couche dans sa vie, puis à peu près 2% des femmes en auraient subi deux ou plus. Donc, c'est plus répandu que je le croyais, mais que voulez-vous, hein? Moi, n'étant pas une femme, j'ai passé à côté. Hein? Souvent, il y en a qui en font, mais on le sait pas. Hein? C'est pas des choses qu'on va aller raconter à tout le monde, qu'on fait des fausses couches. Mais quand on l'en fait à répétition, ça peut être causé par ces réactions auto-immunes que je te parle, comme le syndrome des anticorps antiphospholipides. Puis ça entraîne une formation de caillots sanguins, ça, en fait. Ça cause des fausses couches. Alors, il y a ça, puis ce syndrome-là peut être traité par des anticoagulants, comme quand on prend deux médicaments que vous connaissez peut-être, aspirine et héparine. Oh, est-ce que tu connais l'héparine, par exemple? C'est un petit peu plus...
L'héparine, ça ne dit rien. L'aspirine, ça, c'est clair, là, c'est évident.
Ouais, c'est
là.
Ça. Mais en mixant les deux, bon, une nouvelle étude japonaise qui montre que le traitement peut être efficace pour d'autres causes aussi de fausses couches à répétition. Ça augmente la probabilité de naissance en bonne santé. Alors, c'est vraiment intéressant. Les résultats ont été publiés, là, si ça vous intéresse, ça a été en septembre l'année dernière, 2024, dans la revue Frontières en immunologie.
Ouais, puis c'est encore assez récent, là, somme toute, là, tu sais, septembre. Là,
Oui. Ça fait quelques mois, là, que ça a été découvert. Ben, les résultats de l'étude japonaise ont été dévoilés. Puis, vu que quand on prend ça conjointement, l'aspirine et l'héparine, ça semble efficace contre le syndrome, quand il est causé par des anticorps déjà connus, ce que les chercheurs ont voulu faire, c'est savoir si c'était aussi efficace parce qu'il y a des nouveaux anticorps qui apparaissent dans des cas comme ça de fausse couche. Puis, ils ont suivi tous les cas de fausse couche à répétition dans les 5 centres médicaux au Japon entre 2019 et 2021. Ils ont identifié 462 femmes. Parmi elles, 78 avaient des niveaux élevés de ces nouveaux anticorps. Donc, on a voulu faire les tests pour tout ça. Puis, il y a une cinquantaine d'entre elles qui sont tombées enceintes à nouveau avant 2023. Puis, quelques-unes de ces femmes-là ont souffert des fausses couches à cause de problèmes chromosomiques. Eux autres, elles ont été exclues de l'étude parce que ça aurait porté un problème. Mais au total, 47 femmes, 47 grossesses ont été suivies, dont 38 qui avaient les nouveaux anticorps puis qui n'avaient pas les antiphospholipides responsables du syndrome. Ils ont été divisés en groupes. Le premier avait reçu aucun traitement. Les autres ont reçu le fameux aspirine avec héparine. Puis, la moitié des grossesses du groupe non traité ont abouti à une naissance. Mais chez ceux qui ont été traités, aspirine, héparine, 90 % ont donné des naissances. Alors, on voit là que c'est hautement efficace. Parmi les naissances, la moitié du groupe non traité a présenté des complications, contre seulement 6 % des naissances des femmes traitées avec la combinaison aspirine, héparine. Alors, on pense que c'est vraiment l'avenir pour régler le problème. Puis, ce qui veut dire que non seulement le traitement diminue le risque de fausse couche, mais ça diminue aussi le risque de complications. Les résultats étaient semblables aussi quand on observait uniquement les femmes qui n'avaient pas d'anticorps antiphospholipides. Là, ça a montré que le traitement est efficace aussi contre des complications qui seraient causées par les nouveaux anticorps. Alors, des résultats vraiment encourageants. La seule chose, là, c'est qu'il va falloir que ce soit confirmé et on va faire de plus grandes études, plus larges, vu que là, l'échantillon était assez réduit. Puis il y avait eu 47 grossesses qui ont été suivies. Donc, faut continuer des études, mais les résultats sont tellement encourageants que on va penser à ça. Hein, c'est héparine. Donc, retenez ce nom, l'héparine qu'on mixe avec de l'aspirine et on prend ça à titre préventif et ça fonctionne. Ça peut aider à ne plus faire de fausses couches, donner des enfants en santé. Donc, je trouvais ça merveilleux.
Merci, Sébastien. Vous savez que dans l'ère du temps, là, une affaire dont on parle beaucoup, c'est les intelligences artificielles.
Ah, absolument. On est rendu là.
Mais toutes les intelligences artificielles ne se traduisent pas forcément en succès, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Devant tout le buzz là, que génère la technologie, on parle de Copilot chez Microsoft, on parle de Gemini chez Google. La plus célèbre d'entre toutes, c'est certainement ChatGPT. Mais toutes n'ont pas le même départ, en tout cas pas comme ChatGPT. Tu sais, ChatGPT, quand ça a parti, OK, il y a eu quelques petits accros, mais ça a été le gros buzz. Mais là, je vous parle de Lucie. Okay. Lucie, c'est une intelligence artificielle générative open source qui devait, je mets ça en guillemets, améliorer la compétitivité de la France en matière d'intelligence artificielle. Mais ça n'a pas convaincu les internautes.
Ah, Lucie, c'est le premier singe, ça. Hein,
c'est vrai?
Ben oui. T'as pas vu le film Lucie avec Scarlett Johansson?
Non, j'ai pas vu ça, mais...
Hey, mets ça à ton horaire, Simon, c'est un des meilleurs films qui est sorti dans les dernières années.
Ah ouais? Puis je vous dirais que, pire encore, Lucie a même dû être fermée précipitamment au mois de janvier, là. Écoutez, les moqueries des internautes étaient telles que, quelques jours après avoir été mise en ligne, l'intelligence artificielle a été comme déplogée, on va dire, mise en ligne en janvier par la société française Linagora, en collaboration avec le Centre national de recherche scientifique en France. Lucie, cette espèce de machine, devait se poser comme une alternative à ChatGPT, Copilot de Microsoft ou encore Gemini, dont je parlais tantôt, là, de Google. Il s'agissait, ça c'était la prétention des concepteurs évidemment, de la toute première IA 100% française et ça c'est important, open source, respectueuse des lois européennes. Parce que tu sais que les lois européennes, elles sont quand même assez contraignantes, hein, restrictives en matière de droits d'auteur, de vie privée, de choses comme ça, là, beaucoup plus qu'ailleurs dans le monde. Donc on disait, c'est la plus grande invention après le pain tranché. Ouais, en tout cas. Alors, dans une phase de test initial, on a invité les internautes à échanger avec Lucie, un petit peu comme les gens avaient été invités à le faire quand on a lancé en grande pompe ChatGPT à l'époque de sa présentation. Te rappelles-tu de ChatGPT quand ça a parti?
Ben oui, tout de suite, je suis allé discuter avec. Moi, j'ai voulu voir de quoi ça avait l'air, mais hey, c'était impressionnant. Je suis resté surpris.
C'est ça. Alors là, on a dit, les gens en France ont dit, on va faire la même affaire. Mais ça s'est pas passé comme ils pensaient. Les internautes qui ont interagi avec l'IA se sont rapidement aperçus que Lucie ne faisait qu'empiler une succession d'erreurs et d'absurdités. Mais quand on parle d'absurdités, elle était même incapable de faire des calculs assez basiques. je dis pas 2 plus 2 égale 4, là, mais tu sais, des affaires comme des multiplications puis des soustractions là, dans le même problème. Mm-hmm. Tu sais qu'à un moment donné, il faut que tu multiplies. Puis là, tu mets les... Il y a comme des parenthèses. Elle était même pas capable de faire des affaires très, très élémentaires. Puis, pire encore, quand lui ont demandé, on disait, OK, ça marche pas, mais comment t'arrives à tel résultat? T'es pas capable de le dire. Donc, ça part mal. Et il y a en plus d'autres personnes. Il y a un utilisateur, entre autres, qui, lui a fait tenir un discours à peu près similaire à celui qu'Adolf Hitler, le Führer, tenait pendant qu'il était au pouvoir en Allemagne dans les années 30-40 à propos du Troisième Reich. Ça sonnait un petit peu pareil, là, en fait, de racisme, en fait, de xénophobie et tout ça. Donc, on comprend que c'était pas les gros chars. En un mot comme en mille, Lucie est à peu près au même standard ou au même niveau que les intelligences artificielles qui ont été lancées en 2023 ou en 2022. Ça arrive pas souvent là, qu'on lance des intelligences artificielles en 2025 et que quelques jours après, on tire complètement la plaque dessus parce que on sait qu'il y a eu des problèmes qui sont survenus au cours des derniers mois ou des dernières années dans la mise en ligne, justement, de ces intelligences artificielles-là. Même Google a connu des problèmes avec son intelligence artificielle, mais on a pris suffisamment conscience des problèmes pour, quand on procède maintenant au lancement, de façon assez générale, on s'organise pour que ce soit fait dans les règles de l'art. Mais de toute évidence, ces gens-là ne l'ont pas fait. Et Lucie aurait pas dû être ouverte aussitôt au public. Même si c'était une phase de test, là, comme l'ont expliqué les concepteurs, ils auraient tout simplement pas dû lancer cette intelligence artificielle-là. Ça a duré, sais-tu combien de temps? J'ai dit quelques jours tantôt. 48 heures.
48 heures, c'est vraiment pas gros. Pauvre Français.
Pour eux autres, la plateforme Lucie.chat a rapidement été rendue inaccessible et l'équipe s'est confondue en excuses. Ils ont expliqué que l'information n'avait pas été bien communiquée et clarifiée auprès du public. Ils ont reconnu quand même que ça avait été prématuré comme lancement. Et l'entreprise qui est spécialisée dans les logiciels libres rappelle que Lucie, c'est là son espèce de problème, c'est que ce modèle d'intelligence-là, il est, oui, brut, là, comme n'importe quel modèle d'intelligence artificielle qu'on lance en ligne, mais l'affaire, c'est que d'une part, il va juste piocher de l'information dans les contenus en français. Mm-hmm. Et qu'en plus, elle s'appuie sur le caractère open source. Donc, elle va chercher des données en français. Il n'y en a pas tant que ça comparativement à l'anglais et le chinois, par exemple. Tu sais, on comprend que la population est beaucoup plus grande. Puis, en plus de ça, Lucie va juste piocher de l'information dans ce qui est open source, donc des données ouvertes, donc ce qui rajoute une tâche de complexité. Donc, en clair, cette épreuve-là qu'elle a subie s'est avérée un échec cuisant. Ça aurait dû durer un mois. Un mois, cette première phase de test, en tout et pour tout, ça a duré 48 heures et on a dû la fermer. Mais probablement qu'elle va revenir, plus tôt que tard, souhaitons-le, mais en tout cas comme premier essai pour les Français dans le domaine de l'intelligence artificielle.
On repassera.
On repassera, ça n'a pas été très, très concluant.
Hey, ben.
Dans un tout petit instant, on va parler d'une technologie qui est beaucoup plus éprouvée, mesdames, messieurs, la radio en l'occurrence, puisque la Journée mondiale de la radio aura lieu le 13 février prochain. On en discute avec une porte-parole de l'UNESCO à l'émission « Peut contenir des infos ».
Peut contenir des infos.
Chaque année, le 13 février, aux quatre coins de la planète, on célèbre un média qui est plus que centenaire et qui joue un rôle, ma foi, très important dans la société. Vous avez peut-être deviné qu'on parle de la radio. Oui, le 13 février, c'est la Journée mondiale de la radio. Alors, pourquoi on consacre une journée entière à la radio? D'où vient cette journée-là? Et quel est le thème de cette année? On va tout vous dire ça dans quelques instants, puisqu'on a la chance de recevoir en entrevue aujourd'hui pour nous en parler, Madame Mirta Lourenço. Elle est chef développement des médias et médias en situation d'urgence à l'UNESCO. Alors, elle va répondre à toutes nos questions. Madame Lourenço, bonjour.
Bonjour, Monsieur Forgue, et bonjour à tous vos auditeurs et auditrices.
Oui, ben ça fait plaisir de vous recevoir. Les gens qui sont disséminés, qui sont dispersés un peu partout à travers la francophonie canadienne, on va leur expliquer. D'abord, Madame Lourenço, parlez-nous des origines de cette journée-là, la Journée mondiale de la radio, et expliquez-nous un peu l'importance que la journée peut avoir à travers le monde.
Alors, à l'origine se trouve l'Espagne, qui a voulu rendre honneur à la radio en tant que médium. Et Il a eu l'appui de plusieurs États, y inclut le Canada, mais aussi des organisations régionales de radiodiffusion comme l'Organisation de l'Asie et le Pacifique, des Caraïbes, de l'Amérique latine, de l'Europe. Tout le monde était d'accord que la radio, au fur et à mesure des siècles, a apporté beaucoup de contributions au développement de l'humanité et qu'il fallait un jour pour pas seulement célébrer la radio en tant que média, mais aussi améliorer la coopération internationale entre les organismes de radiodiffusion. Alors, ils ont présenté les projets à la 36e conférence générale de l'UNESCO, qui équivaut à l'Assemblée générale des Nations unies, mais sauf que ça a lieu à l'UNESCO. Ça a été en 2011. Et l'UNESCO a proclamé la journée et ensuite l'Assemblée générale des Nations unies a trouvé que c'était tellement important qu'il fallait que ce soit une journée internationale de toutes les Nations unies et pas seulement de l'UNESCO. Alors, en 2012, elle a proclamé une de ces journées internationales.
Il faut comprendre que l'UNESCO, c'est l'Organisation des Nations unies qui se dédie à l'éducation, la science et la culture. C'est bien ça?
C'est bien ça. Et ça a été pour toutes les Nations unies et ses parties prenantes et ses partenaires une façon d'encourager les décideurs publics, disons, et toute personne qui se dédie à la radiodiffusion, une façon de les encourager à continuer à offrir accès à l'information à travers les ondes. Parce que la radio, ça n'a pas l'air, mais ça demeure encore et toujours universel, populaire, bien aimé et considéré par toutes les études qu'on fait, les gens la considèrent comme les médias les plus fiables. Même à l'heure de l'intelligence artificielle, même à côté des réseaux sociaux qui sont omniprésents, les gens, le peuple, tout le monde le considère comme le média favori.
Oui, et en plus, on n'a pas besoin de payer pour accéder à la radio, contrairement à l'Internet, par exemple.
Exactement. Donc, si on regarde les chiffres qui sont plus d'un domaine de digital divide ou de digital la brèche numérique, c'est encore le seul média qui accède à tout le monde.
En 2025, Madame Lorenzo, la Journée mondiale de la radio, elle met l'accent sur les bouleversements climatiques auxquels on assiste depuis des années. Faudrait vivre sur une autre planète pour pas s'en rendre compte. Le thème d'ailleurs, c'est radio et changement climatique. Expliquez-nous pourquoi on a choisi ce thème-là au juste.
C'est parce qu'en 2025, conformément à l'accord de Paris, si nous voulons limiter le réchauffement de la planète à 1,5 degré centigrade, alors les émissions de gaz à effet de serre devraient culminer en 2025, au plus tard, et pour ensuite diminuer. Et donc, à l'origine, c'était pour accompagner cet objectif clé. C'est aussi l'année de la COP, la conférence sur le climat, la COP 30. Donc, c'est ça l'origine de l'idée. Mais aussi pour aider la radio en général à rendre compte de ces questions du changement climatique d'une manière plus efficace et objective et d'une façon qui ne soit pas exceptionnelle, mais que ce soit quotidienne. Transversal, le changement climatique peut être mentionné quand on traite du sport, je sais pas, la production du fromage, l'agriculture, le cinéma, ça apparaît partout, pas besoin de faire des reportages exclusifs et exhaustifs. Et aussi varier les formes, les traiter sous forme de sketchs, de comédies, de micro-trottoirs, pas seulement comme documentaire, audio ou comme magazine.
On comprend donc que la radio, on veut la présenter comme une source d'information fiable sur laquelle on peut compter en tout lieu, en toutes circonstances, pour justement nous tenir au courant d'un paquet de façons possibles. Vous les avez mentionnées, par soit des nouvelles, des micro-trottoirs, donc les vox pop, les choses comme celles-là, sur ces bouleversements climatiques. C'est un peu ce qu'on doit comprendre.
Oui, parce que jusqu'à maintenant, disons, la radio et aussi les autres médias ont fait un travail formidable pour populariser les concepts environnementaux ou les concepts liés au changement climatique. Mais maintenant, il s'agit d'aller au-delà de ça. Et c'est pour normaliser le fait que ce problème est omniprésent et donner une opportunité tant aux auditeurs et auditrices comme aux décideurs sur les questions environnementales de mieux comprendre ce sujet. Parce qu'entre les auditeurs et les auditrices de la radio, se trouvent tous les jours, minimum les matins, à l'heure de grande écoute, il se trouve aussi les décideurs. Donc, c'est une façon de les atteindre. Maintenant, la radio ne va pas nous dire quoi penser sur les changements climatiques. Ce n'est pas l'objectif d'une radio qui est libre et indépendante, mais il va nous dire sur quoi penser. Et il va nous donner des thématiques, des sous-thématiques qui sont liées au changement climatique. Et de cette façon-là, ils vont capter notre attention et vont nous engager. C'est-à-dire, on ne souhaiterait pas, aucun d'entre nous, d'aller vers la polarisation des positions. Simplement de créer des conversations, disons.
On comprend qu'elle est là pour nous éveiller, nous faire prendre conscience de certains défis que l'on rencontre au niveau environnemental, c'est ce qu'on doit comprendre, mais la radio elle-même, Mme Lorenzo, elle rencontre des défis en 2025. La radio de 2025 n'est pas confrontée aux mêmes problématiques ou aux mêmes défis qu'elle avait, par exemple, il y a 40 ou 50 ans. Parlez-nous justement de ces défis que la radio rencontre ces temps-ci là, pour la poursuite de ses activités, pour mener à bien sa mission. On parlait de fracture numérique, par exemple, tantôt. J'imagine que c'en est un parmi tant d'autres, les défis que rencontre la radio.
Oui, le premier des défis, c'est la perte des moyens financiers, la perte de publicité qui est partie vers Internet, la perte des fonds publics. Même les radios publiques ont des problèmes à ce moment. Un peu plus les radios communautaires, par exemple, parce que nous devons garder à l'esprit que la radio, en général, c'est une moyenne ou petite entreprise. Et donc, la survie financière, c'est un des principaux défis de la radio. Si on lit ce thème à la question du changement climatique, où il s'avère que c'est extrêmement importante d'avoir de consulter des sources et de vérifier les sources et tout ça, c'est très coûteux. Supposer qu'une radio veut déconstruire un argumentaire climato-sceptique. Et elle doit prendre beaucoup de temps à trouver des sources d'informations et aussi même à prendre distance de cette source et pouvoir arriver à un traitement indépendant. Ou si la radio veut dévoiler un éco-blanchiment qui fait une entreprise. Tout ça, c'est coûteux. Donc, lié au problème de perte de publicité et de fonds publics, ça fait vraiment un des grands défis de la radio. Et ensuite, un autre défi, c'est l'indépendance éditoriale. Ça veut dire pouvoir se détacher de ce que les entreprises disent, de ce que les politiciens disent, de ce que les acteurs de la vie institutionnelle disent, et même les sources consultées. Et tout ça est un problème. Mais la relation, disons, entre les sources et les journalistes va être très importante parce que ça va donner ça va avoir un impact sur les thèmes que la radio va choisir de traiter et de la hiérarchie d'importance qu'il va lui donner à ces thèmes. Je ne sais pas si je m'explique bien.
Oui, je comprends tout à fait, Mme Lorenzo. Le temps file. Si on parle un peu de cette journée mondiale de la radio là, dont il est question et qui va se dérouler le 13 février, comment les gens peuvent participer à cette journée mondiale de la radio? On s'affiche dans les médias sociaux, on en parle. Comment les gens peuvent se renseigner et y participer au final?
Oui, il faut aller sur le site www.unesco.org et taper « Journée mondiale de la radio ». pour trouver toutes les ressources que nous avons produites. Elles sont libres de droits et elles sont libres, elles sont gratuites. Il y a des clips audio, des clips vidéo, il y a des conseils éditoriaux de comment traiter le changement climatique et il y a un guide de comment traiter la question climatique et avoir des ressources, des revenus, disons. Et aussi, surtout, la possibilité de collaborer avec d'autres radios dans le monde, parce que les radios, l'équipe éditoriale d'une radio, normalement, cherche des entretiens, des experts, des invités, et pour les thèmes climatiques qui sont en général régionales ou transfrontalières, disons, ne respectent pas la frontière, c'est une possibilité de pouvoir interviewer des gens d'autres parties du monde ou d'autres parties du pays et sur la même problématique. Donc, on invite tous vos auditeurs et auditrices à visiter les sites et télécharger toutes les ressources qui sont gratuites. Il y a aussi un onglet très important qui s'appelle 13 idées pour célébrer le 13 février. Et là, on donne des pistes concrètes de qu'est-ce que la radio, même la plus humble, peut faire ce jour-là pour célébrer la journée à la radio.
C'est intéressant. Le 13 février, on va célébrer la journée mondiale de la radio. On a juxtaposé, dans une certaine mesure, deux sujets qui sont, ma foi, universels. La radio, hein, on la connaît partout à travers la planète. Les changements climatiques, ça va de soi. Tout le monde les vit, tout le monde les connaît. Alors, on a mis ça ensemble et ça donne une thématique qui s'intitule « Radio et changement climatique » pour souligner, justement, le 13 février, cette journée mondiale de la radio. On en parlait avec Madame Mirta Lourenço. Elle est chef développement des médias et médias en situation d'urgence à l'UNESCO. Madame Lourenço, merci et soignez cette grippe, là, ce rhume qui vous afflige actuellement, puis bonne célébration.
Merci à vous et bonne célébration à vous, surtout bravo pour tout le travail accompli par les radios.
Avertissement.
Cette émission peut contenir des infos.
On entre dans ce troisième bloc de Peut contenir des infos cette semaine. Toujours Simon Forgue et moi-même, Sébastien Boucher, avec vous. Et Simon, dans ce bloc-ci, tu vas nous parler de quel sujet?
Je vais vous parler des animaux les plus venimeux de la planète. Ça va être surprenant.
Et tout d'abord, comme je l'avais mentionné, moi, je voulais te parler du retour du caoutchouc en Amazonie. Ah. Parce qu'il y a eu l'âge d'or du caoutchouc en Amazonie il y a à peu près 100 ans. Puis là, il est de retour dans une version durable. Il y a l'île amazonienne de Marajó qui a connu l'âge d'or du caoutchouc. C'était après la chute drastique de la demande du caoutchouc à la fin du 20e siècle. On a arrêté d'en demander, mais il y a une entreprise locale qui a permis récemment une reprise de l'activité du caoutchouc. Et puis, je te parle d'un monsieur qui s'appelle Renato Cordeiro, qui, lui, prend son couteau pour saigner des EVA, qui lui donne goutte après goutte de quoi nourrir sa famille. C'est dans cette région-là qui est pauvre au nord du Brésil. C'est proche de Belém, au Brésil. Et d'ailleurs, c'est un endroit qui va accueillir la 30e conférence mondiale sur le climat au mois de novembre prochain. Donc, bon, ça tombe sur cet endroit-là. C'est une coïncidence, mais quand même.
Ben oui.
Mais c'est une entreprise, une initiative de l'entreprise locale Seringo, qui vient du mot portugais Seringueira, qui veut dire EVA. Hein, c'est où ce qu'on va chercher le produit, l'EVA. Et ça a permis de reprendre l'activité. On le fait dans le développement durable maintenant, c'est destiné à la fabrication locale d'objets comme des chaussures. On va faire du caoutchouc pour toutes les chaussures qu'on va faire là-bas. Et ça redonne du travail à plus de 1500 personnes comme ce monsieur Renato Cordeiro. Et on les implique aussi dans la préservation de la forêt. Donc moi, je trouve que c'est une bonne nouvelle, là, du moins concernant l'Amazonie. Et tu vas voir comment caoutchouc peut être dans la même phrase que préservation de la forêt, là.
Ben, c'est parce que c'est naturel en même temps, là. Je veux dire, c'est directement puiser oui. Des arbres, là, c'est ça.
Oui, vraiment. Puis lui, il avait commencé à 7 ans, monsieur Cordeiro, avec sa mère, à saigner les EVA. Et il se souvient, il maniait avec soin son couteau avec une lame spéciale pour faire des entailles sans endommager les troncs. Hein. C'est une sorte d'arbre, l'EVA. Puis, il y a un petit récipient qui est fixé ensuite sur chaque entaille pour récolter le latex qui coule de la saigner. Ils font ça comme ça. Puis chaque jour, il ramène à peu près chez lui 18 litres, lui, qui mélange avec du vinaigre. Ouais. Puis il obtient des rondelles de pâte de couleur blanche ou presque, attachées par la suite à une corde. Puis là, il les fait sécher. Et 10 jours plus tard, le caoutchouc est prêt. Déjà prêt à être vendu. quand même assez spécial. Ouais. Hein? Puis c'est une vraie fierté pour lui. Là, lui, il est père de 3 enfants, puis il a repris les saignées depuis 2007 des arbres EVA. Parce que après des décennies florissantes, il y avait eu l'effondrement, comme je te disais, de la demande du caoutchouc pour l'industrie pneumatique. Et c'était dû à la plantation à grande échelle d'EVA dans des pays comme la Malaisie. Et puis, ça a eu pour effet une forte augmentation de la déforestation à Marayo. Alors, il y avait moins d'arbres. Puis là, à présent, le caoutchouc fait à nouveau vivre cette famille. Et il y a une épouse puis une belle-mère qui utilise une partie de la production pour fabriquer de l'artisanat. Alors, c'est merveilleux. Puis Marayo présente un des pires indices de développement humain du Brésil. C'est pourquoi ça prenait des revenus. Puis là, les gens, ils se font ça. Petite entreprise familiale, comme ça, ils se mettent à faire du caoutchouc. Puis leur projet, au début, c'était supposé être pour faire des petits objets d'artisanat par les femmes. Mais les producteurs d'EVA, ils n'étaient pas satisfaits d'extraire du caoutchouc seulement pour donner du travail à leurs femmes. Et c'est pour ça qu'ils ont pensé à production de chaussures. Puis là, ça okay. fonctionne. Ils ont une usine qui produit chaque jour 200 paires de chaussures, de sport puis des sandales, totalement biodégradables. Hein? Ça, c'est important de le mentionner. Composé à 70 % de caoutchouc naturel et 30 % de poudre d'açaï. Puis l'entreprise Seringo a reçu récemment le soutien du gouvernement de l'État du Pará qui poursuit l'objectif d'avoir pour fournisseur 10 000 travailleurs dans le cadre d'un programme de développement en vue de la prochaine conférence sur le climat, la 30e, qui va se passer là-bas. Mais elle doit encore redoubler les efforts pour convaincre les jeunes, hein, parce que les jeunes veulent pas trop s'impliquer dans le travail du caoutchouc, trop, en tout cas jusqu'à date. Alors, faut qu'on les aide à prendre conscience de l'importance de ce travail-là pour préserver la forêt, entre autres, et leur avenir. Donc, c'est reparti en Amazonie, en tout cas, production de caoutchouc. Ça y va par là.
Moi, c'est vraiment spécial. J'aime ça, moi. Merci, Sébastien. Je vous parle des animaux les plus venimeux de la planète. Vous savez que pour immobiliser des proies avant de les manger ou encore pour se défendre contre les prédateurs, il y a plusieurs animaux qui injectent du venin quand ils piquent.
Je me disais que ça pourrait être quasiment comme un quiz d'essayer d'y trouver là, les 5 plus gros. Je sais que notre quiz est à la fin de l'émission, mais je me dis, serpent doit être là-dedans, je peux pas croire.
Exactement, oui, il y en a plus qu'un à part de ça. Mais je vais vous donner le top 5 dans un instant. Vous savez que le venin peut même servir des fois comme un bon moyen d'éliminer un rival pour accéder à ses ressources, par exemple, ou encore lui dérober sa ou son partenaire. Tu sais, ça se bat, puis à un moment donné, il y en a un qui se fait piquer, ben bing bang, c'est fini. Alors, on les dit venimeux. Tu sais pourquoi, hein? On dit venimeux par rapport aux plantes ou encore aux champignons, par exemple, qui sont vénéneux. Est-ce que tu sais la raison pour laquelle, c'est quoi la différence?
Oui, je l'avais déjà su. Ben, il y en a un qui c'est du venin, puis ça serait venimeux qui est du venin. Puis vénéneux, c'est quoi déjà?
Ben, écoute, venimeux, c'est parce que ces animaux-là peuvent volontairement utiliser leur venin, en mordant, par exemple, ou encore en piquant. Et au contraire des plantes et des champignons, notamment qu'on dit vénéneux, mais qui ont quand même un poison, ces plantes-là, ces champignons-là, eux autres ne peuvent pas l'inoculer par eux-mêmes.
OK, faut que quelqu'un aille directement le manger ou un animal aille le manger.
Voilà, alors c'est à tout fait utile, la même affaire. C'est des toxines, là, je veux dire, ça a le même effet, si on veut. Et même près de nous, soit dit en passant, on a des animaux, même chez nous au Canada, qui sont venimeux, là, soit dit en passant. Il y a des fourmis qui sont venimeuses, qui vont piquer puis qui vont ou mordre puis qui vont transmettre du venin pour paralyser ou pour engourdir, si on veut, la proie. Les araignées font ça. Les scolopendres, connais les scolopendres, les espèces de petits, ça a l'air d'un mille-pattes un peu, là. Il y a ça des fois dans les sous-sols. C'est pas très bien.
C'est venimeux, ça?
Ouais, ça sécrète du venin. Ben, écoute, c'est pas nécessairement du venin qui va être, comme on dit, mortel pour l'être humain, mais si on se fait mordre ou piquer par ce genre d'animaux-là, ça peut arriver qu'on ressente une petite douleur ou un engourdissement ou des choses comme celle-là, mais c'est typique là, des animaux venimeux. Hein. Quels sont
Des guêpes aussi, c'est ça. Du venin.
Exactement. Alors, c'est quoi les animaux les plus venimeux du monde? Je vous rapporte ce qui constitue sans aucun doute le top 5 à travers la planète. L'un des animaux les plus venimeux de la planète, c'est sans conteste le taïpan du désert.
C'est un serpent.
C'est un serpent. Il est de couleur brune, d'une teinte qui varie selon les saisons, de marron foncé à un beige qui est plus près du vert olive. Et c'est un serpent australien qui a cette particularité, entre autres, c'est qu'il est plus foncé en hiver qu'en été pour accumuler de la chaleur.
Ah, ben, t'es.
Il est long d'environ 2 mètres et il est considéré comme « the » serpent le plus venimeux au monde. Et c'est d'ailleurs de cette façon-là qu'on le présente dans le livre Guinness des records.
Okay.
Il y a une étude australienne qui est parue en 1979 qui avait décrit le venin du taipan du désert comme ayant une valeur létale, j'espère que vous êtes bien assis là, 100 fois supérieure à celle du crotal diamantin et 25 fois supérieure à celle du cobra royal.
Okay.
Qui sont quand même des méchantes bibites à venin, là. Alors, et de fait, c'est juste en 1955 qu'on a réussi à développer le premier anti-venin pour le taipan du désert. C'est un jeune chasseur de serpents. Il s'était fait mordre, lui, par le taipan du désert. Et il a eu le temps d'apporter le serpent vivant avec lui à l'hôpital, imagine-toi donc. Puis à ce moment-là, comme le serpent était vivant, il était encore capable de produire du venin. On a extrait du venin de ce serpent-là. Et à partir de cette dose-là qui a été extraite en 1955, on était capable de produire un antivenin. Et juste pour vous dire, là, on dit qu'une seule dose de venin du taipan du désert suffit à tuer des dizaines d'humains adultes. Ça tourne à peu près autour de 125 à 130 personnes avec une seule dose de venin de ce serpent.
Aïe.
Le okay. Mamba noir, c'est un autre serpent. Il est à l'aise autant... c'est un peu spécial. Lui, il se promène autant au sol qu'à la cime des arbres.
Okay.
Donc, tu peux te promener à un moment donné, tu lèves la tête, puis il y a un mamba noir qui est là.
Mais c'est vrai, des serpents, ça grimpe dans les arbres.
Ouais. Lui, il peut faire jusqu'à 4 mètres pour certains individus. La moyenne, ça tourne autour de 2 mètres et demi. Et son aire de répartition se retrouve dans les savanes et les collines rocheuses au sud et à l'est de l'Afrique. C'est l'un des serpents les plus rapides au monde. C'est ça le problème. C'est que ça se déplace jusqu'à 20 km heure.
Okay.
C'est un peu rapide. Si tu essaies de te sauver 20 km heure, là, c'est un peu vite. Alors, c'est un serpent qui est à la fois rapide et nerveux. Il devient très agressif lorsque menacé. Mais, fort heureusement, la nature est quand même pas trop mal faite dans le sens où lui, il est comme un peu peureux. C'est que s'il se sent un petit peu menacé, il va avoir tendance à se sauver. Sauf que quand il se fait trapper, là, entre guillemets, là, et là, c'est pas beau, par exemple. Serpent noir qui, contrairement à ce que le nom pourrait laisser croire, il est pas noir à proprement parler, il est plutôt olive ou gris, mais le nom de Mamba noir vient de la couleur de sa bouche quand il ouvre. Ah. Il a la bouche noire, noire bleutée un peu, là, et c'est de là dont vient son nom. On dit que les neurotoxines et les cardiotoxines que renferme son venin, foudroie un humain en une vingtaine de minutes. C'est assez rapide. Et si l'antivenin n'est pas administré rapidement, là, c'est la mort presque assurée en vous faisant mordre par un mamba noir. On va lâcher les serpents un petit peu. On va aller du côté d'une bibitte un peu plus petite, le scorpion.
Ah-ha.
Le scorpion jaune à queue large, plus précisément.
C'est sûr qu'il était dans le top 5, le scorpion.
Ben, écoute, de toutes les espèces de scorpions, le jaune à queue large, c'est le scorpion qui est réputé comme l'un des plus dangereux. Il vit au Maghreb. Il y a un poison, ma foi, très puissant. La toxicité de son venin est telle qu'il provoque une douleur intense et des complications médicales presque instantanées. Quand il pique, quand il injecte son venin, ça interfère avec le système nerveux. Ça conduit presque irrémédiablement à une paralysie générale, comprenant évidemment le système respiratoire, parce qu'on comprend que le système respiratoire, c'est relié au système nerveux. Et c'est pas forcément toujours mortel, mais plus souvent qu'autrement, quand on se fait mordre puis qu'on n'est pas soigné rapidement, là, les conséquences deviennent irréversibles pour le système nerveux. On va vivre avec, pratiquement le restant de ses jours, des séquelles de ça. On se transporte dans l'océan cette fois-là, la cuboméduse australienne. Elle possède des tentacules qui provoquent un choc anaphylactique et une mort rapide quand on les touche. Une toxine qui a des effets directs sur les muscles et les nerfs et qui peut causer des complications immunologiques. Chronique, on dit que dans son cas, la mort survient généralement dans les 5 à 20 minutes après avoir été effleuré par les tentacules d'une cuboméduse australienne.
Moi, je te dis que ça me donne pas le goût d'aller en Australie. Ton affaire, ça fait deux, là.
Non, mais t'auras peut-être pas le goût d'aller te promener non plus aux États-Unis parce que la veuve noire, elle clôt ce top 5.
Ah oui.
C'est une araignée de couleur noire avec une trace rouge caractéristique sur le dos. Araignée, pas grosse, hein? Ça fait à peine 1 cm. Elle est pourtant extrêmement dangereuse. On la trouve essentiellement aux États-Unis. On dit que son venin, il est 15 fois plus toxique que celui du serpent à sonnette, qui est quand même pas piqué les vers. Et elle est pourtant considérée, cette araignée-là, comme je le disais tantôt, toute petite. Elle a l'air inoffensive comme ça, mais oh my God, mets-toi pas le doigt là, parce que La morsure qu'elle rejette renferme de l'alpha-latrotoxine qui provoque dès la première heure d'intenses douleurs musculaires, des spasmes qui s'apparentent à un infarctus du myocarde. T'as l'impression de faire une crise cardiaque carrément et des troubles respiratoires aigus sévères et les troubles d'une piqûre de la veuve noire vont des démangeaisons jusqu'à une infection locale, maux de tête, vertiges, nausées, vomissements et jusqu'à terme, si on n'est pas traité, ma foi, très, très rapidement, il peut y avoir de très graves séquelles. Déjà, on a dépassé le temps qui nous était alloué. On va franchir le cap de la quatrième ligne droite dans un instant, puisqu'on va attaquer la dernière portion de l'émission. Peut contenir des infos.
Quiz.
Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer.
Le quiz. Le quiz.
C'est notre dernière portion de l'émission et on s'attaque cette fois-ci à notre quiz et il va porter cette semaine sur...
La bière.
La bière, OK. Hey,
est-ce que Simon connaît la bière? Nous le saurons bientôt. Et puis vous, à la maison ou dans la voiture ou où ce que vous êtes, ben essayez de répondre aux questions et notez le nombre de bonnes réponses que vous aurez. On verra si vous passez le test sur la bière. Êtes-vous connaisseur? On va rappeler aux gens de consommer avec modération.
Ben oui, absolument.
Buvez pas de bière.
Buvez pas une bière par question parce que vous allez trouver qu'il y en a pas mal.
Non, non, c'est ça. OK, première question, t'es déjà prêt, Simon?
Oui.
J'ai comme l'impression que celle-là, tu vas l'avoir, j'ai fait cette question-là comme spécialement en pensant à toi.
OK.
Tu m'as déjà sorti la bonne réponse dans une question semblable. À l'échelle mondiale, le plus gros producteur de bière, puis je te donne même pas de choix de réponse pour celle-là.
La Chine.
Ben oui, bravo. Je le savais. Je l'avais fait pour toi pour te donner un petit point gratuit. Je savais que tu le savais parce que la Chine, hein, y a tellement de monde. C'est ça que tu m'avais répondu la dernière fois, puis t'avais raison. Eh bien oui, la Chine encore pour la bière, c'est la même chose, tout comme le miel. C'est la Chine qui en produit le plus dans le monde. Deuxième question, bravo pour ton premier point. Quel pays est le plus gros producteur de bière en Europe? Là, je vais te donner un choix de réponse. La Pologne, la Belgique, l'Espagne ou l'Allemagne?
En termes de population, là, encore là, je dirais probablement l'Allemagne.
Mais c'est beau! C'est beau, c'est la bonne réponse, c'est deux en deux, ils connaissent la bière. L'Allemagne, avec 8 milliards de litres produits, ça représente 23 % de la production européenne. Puis, c'est la Pologne et l'Espagne qui complètent le podium. Ouais, Pologne et Espagne, donc je vous avais mis dans les choix de réponse aussi parce que c'était proche. Donc, laquelle des céréales entre dans la composition de la bière blanche? Ça, est-ce que t'aimes, toi, la bière blanche?
Avec le petit goût d'agrumes. Je déteste pas.
Moi, j'adore pas. Je dois dire le contraire. J'ai une petite réticence à la blanche, mais j'aime pas trop. Mais laquelle des céréales entre dans la composition de la bière blanche? Est-ce que c'est l'avoine, le blé dur, le sorgho ou le froment?
Je dirais le blé dur, une bière de blé.
Et non, t'as pas la bonne réponse. C'est le froment, qu'on appelle aussi le blé tendre.
Hein, ah, le blé dur, tendre. Blé tendre. Ah, ben oui, absolument.
C'est du froment et puis il est présent à hauteur de 30 % minimum dans la composition de la bière blanche. Il remplace en partie le malt d'orge qu'on trouve habituellement dans la bière.
Je me suis laissé emporter par le blé, là. J'ai fait la confusion avec le blé dur. Le blé dur, il rentre plus en composition, par exemple, pour quand on fait des pâtes alimentaires. Puis des
exactement.
Choses comme ça.
Ah, oui. Okay. OK, une quatrième question. Le rôle du houblon dans la fabrication de la bière, est-ce que c'est pour la fermentation? Est-ce que c'est pour stabiliser la bière et lui donner son amertume? Est-ce que c'est pour déterminer le niveau d'alcool? Ou donner de la couleur et transformer l'amidon en glucose?
Je pense que c'est pour donner de l'amertume à la bière, si je ne me trompe pas.
Eh oui, c'est exactement. Ça lui donne son amertume et ça la stabilise. C'était la réponse B, là, la deuxième. Stabiliser et lui donner son amertume. Et c'est aussi, le houblon, soit dit en passant, un conservateur naturel pour la bière.
Ah, OK.
OK, une autre question. Au cours de quel mois de l'année la bière est-elle célébrée dans la ville de Munich? Est-ce que c'est en février, en mai, en juillet ou...
En octobre!
Ben oui, bravo pour ta bonne réponse à cause de l'Oktoberfest.
Hein? Absolument.
Ben oui, on connaît ça, c'est la fête de la bière à Munich, mais aujourd'hui la fête se déroule entre septembre et octobre et on pas juste à Munich. Hein? On voit de l'Oktoberfest passer un peu partout. OK, on y va pour une vraie ou faux. Une bière triple, c'est une bière qui a fermenté trois fois. Vrai ou faux?
Ça, c'est une pointe, je suis à peu près certain, puis je dirais que c'est faux.
Et bonne réponse, c'est faux. Une bière triple, c'est une bière qui comporte tout simplement plus de malt. Elle est plus forte en alcool, c'est les bières au-dessus de 8 %.
OK, ah, c'est ça. Okay.
C'est les bières triples, mais ça n'a rien à voir avec fermenter trois fois.
OK.
OK. Une septième question. Quelle boisson gauloise est considérée comme l'une des ancêtres de la bière? Là, si t'es un fan d'Astérix et Obélix, t'as la réponse.
De la cervoise.
Ben oui, c'est, ah ouais. C'est clairement ça. Les choix de réponse, ça aurait été gervoise, vergeoise, cervoise, bervoise, là, tu l'aurais eu. Ben en effet, puis moi aussi, celle-là, je l'ai trouvée facile. La cervoise, c'est une sorte de bière d'orge et de blé, faite avec des herbes, mais sans houblon. Et c'était en usage dans l'Antiquité et au Moyen-Âge aussi.
OK. Alors... Et ça, c'était une boisson très, très appréciée d'Astérix et particulièrement ben d'Obélix. Oui. Hein?
Une bonne cervoise tiède. OK, huitième question. Quelle variété de bière représente 90 % de la production mondiale? Est-ce que c'est A, la pale ale, B, la blanche, C, la stout ou D, la lager?
C'est drôle, j'aurais dit la pilsner, mais pas là. Enfin, je veux dire la lager. Je veux dire la lager.
Oui, parce que la pilsner est une lager, je crois. Ou je suis pas sûr. Ah, ben là, c'est moi qui connais pas trop sa bière. Mais c'est la lager, qui est une bière blonde classique obtenue par fermentation basse. C'est toujours 4 ou 5 % d'alcool, mais c'est vraiment elle. 90 % de la production mondiale, c'est de la lager.
Ben, pas mal. Il y a en tout cas beaucoup de bières qu'on trouve dans les tablettes des supermarchés, dans les frigidaires là, des régies des alcools et tout ça. Là, il y a beaucoup de lager là-dedans. Ouais. Là,
ouais. Ben, il faudrait que là faire une recherche ou un auditeur qui nous écoute là présentement qui pourrait nous répondre. C'est quoi la différence entre pilsner et lager? Là, ça m'échappe. Il me semble qu'il y en a eu une différence.
Ben, ouais. Les Tchèques, entre autres, font beaucoup de la pilsner, ça.
OK. Ouais,
entre autres. Bon. Je sais pas c'est quoi les différences, mais en tout cas.
Moi, me renseigner là-dessus, ce sera pas trop long. OK. Quel sirop on doit ajouter à la bière pour obtenir un Monaco? Est-ce que c'est... Ça, c'est une boisson, le Monaco. Ouais. Est-ce qu'il faut ajouter à la bière de la menthe ou B, du citron ou C, de la grenadine ou D, de l'anis?
Tu dis de la menthe, puis les deux premiers. Je disais entre la menthe et le citron. Non, le citron, ça serait plus... Il y a un autre nom pour ça. Je dirais probablement de la menthe.
Et non, c'est de la grenadine.
Ah, de la grenadine.
Bière avec de la grenadine, ça fait un Monaco. Ouais. C'est une boisson rouge avec une mousse blanche et ça fait comme le drapeau de la principauté de Monaco.
Ah, ben oui.
De principauté parce qu'il y a un prince, là, c'est comme un pays. Mais ouais, à Monaco, pour le drapeau, c'est rouge et blanc. Alors, avec la petite mousse blanche sur le dessus de la bière puis avec la bière qui est rendue rouge, c'est un Monaco. OK, quelle est la couleur des bières de type stout? Est-ce que c'est blanche, blonde, ambré ou rouge-noir?
Ah, c'est foncé, c'est rouge-noir, une stout.
Tout à fait, tout à fait. C'est une ale de tradition anglaise qui possède un goût de grillé persistant grâce à des maltes très torréfiés. Et on trouve un goût de café aussi, voire même de cacao, les stouts. Puis moi, j'aime beaucoup la stout. C'est souvent fort en alcool, mais les bières stout sont de couleur sombre, rouge foncé et s'attirent vers le noir.
OK.
Quel quartier de Strasbourg, c'est en France, Strasbourg,
oui.
Une commune en France, est connu pour sa production de bière? Est-ce que c'est Affligem, Heineken, Kronenbourg ou Warsteiner?
Heineken, non, je pense pas. Ça serait plus Kronenbourg.
Mais tu es donc bien bon! Hey, franchement, quiz sur la bière, moi qui pensais t'avoir dans des questions pièges, ben non.
Mais, tu sais, quand j'ai entendu Heineken, j'ai dit, ben c'est une bière qui est connue, mais Heineken, je la pense pas en française. Kronenbourg, ben oui, ça me sonnait une cloche un peu. J'ai pris un
Kronenbourg, puis en fait, c'est un des principaux producteurs de bière en France.
Ah bon, et, OK.
Ouais, Kronenbourg avec un K, c'est pour tirer... parce que l'endroit où je te parle, le quartier de Strasbourg, ça s'écrit avec un C, Kronenbourg. Mais ceux qui font de la bière, c'est avec un K.
OK.
Mais oui. Quelle est la marque de la bière la plus connue de Chine? Oh. Puis moi, ça, quand j'ai préparé les choses, j'ai tenté de trouver, puis j'ai trouvé la bonne réponse. Je ne sais pas pourquoi, je suis tombé dessus. Mais quelle est la marque de la bière la plus connue en Chine? Est-ce que c'est Singha, Tsingtao, Bingtang ou Azaï?
Je vais te le dire, c'est la Tsingtao.
Ben oui, puis moi aussi, je l'ai eu. On dirait que ça me disait de quoi?
Ben, parce qu'on a même chez nous, chez nous à la maison, là, j'ai pas de la Tsingtao dans mon frigidaire, mais je veux dire, même chez nous, en Amérique du Nord, tu vas dans beaucoup de beer stores, là, de régies d'alcool, puis tu vois de la Tsingtao. C'est une des marques chinoises, me semble-t-il, en tout cas, qui est parmi les plus exportées. Ça fait que...
Ben, c'est la plus connue.
Ouais.
C'est clair. Puis juste noter, la Singha que je t'ai nommée, c'est thaïlandais. Okay. La Bingtang, c'est indonésien. Puis la Azaï, l'autre, c'était japonais. Ça aurait pu être proche, mais...
Okay.
Voilà, la chinoise, c'est la Tsingtao. OK, de quelle couleur est l'éléphant sur les bières Delirium Tremens? C'est une bière qui est assez connue, tu l'as peut-être déjà vue même en magasin.
Ouais.
Il y a un éléphant dessus. De quelle couleur est l'éléphant? Est-ce qu'il est jaune, blanc, rose ou multicolore?
je vais prendre un vrai gros guess parce que oui, je me souviens d'avoir vu un éléphant. Oui, j'ai entendu parler de la Delirium tremens. Je vais dire rose, on va dire, parce que c'est pas...
Bravo! Ah, ouais, c'est okay. Ça, je me disais, il va l'avoir. Il va dire un éléphant rose juste pour faire... On a tous déjà entendu parler d'éléphant rose, qu'on ouais. hallucine. Bon, et oui, c'est une bière très populaire en brasserie, puis c'est une des bières blondes à 8,5%. Puis il y a vraiment un éléphant rose dessus. C'est la bière Delirium tremens. OK, quel goût a une bière Indian Pale Ale? Puis sais-tu, ben, tu sais, je pourrais rajouter la question, qu'est-ce que c'est l'acronyme? J'aurais dû faire le contraire. Là, IPA, qu'est-ce que veut dire IPA? Ouais. Bon, IPA, c'est Indian Pale Ale. Alors, quel goût a une bière Indian Pale Ale? Est-ce que c'est sucré, fruité, amer ou salé?
Ben là, tu as fruité puis t'as amer. Ça tire un peu sur le citron dans un certain sens. Fait que je vais dire fruité, tu sais.
Mais non, c'est vraiment amer, les IPA. Okay, t'es pas un grand buveur de IPA, Simon, je crois.
Je ne trippe pas sur la IPA, non, j'avoue. Ouais,
parce que c'est amer, justement.
Ouais, c'est ouais. ça, tu sais.
Ouais, parce que fruité, on y va beaucoup plus vers la blanche, là, qu'un goût d'agrumes et tout ça. Mais la IPA, c'est très amer. C'est une bière à fermentation haute qui aurait été développée au 18e siècle par les troupes coloniales britanniques en Inde.
OK.
Et c'est pour ça que c'est Indian Pale Ale. Hein. C'est là que ça a été développé. Qu'est-ce qui donne son goût amer à la IPA?
Ah!
C'est pas de choix de réponse.
Moi, je dirais probablement, je dirais le malt. Tiens, je vais dire...
C'est le houblon.
Ah, c'est le houblon, OK.
C'est la forte présence de houblon. Il y a beaucoup plus de houblon dans une IPA que d'autres sortes. OK, un vrai ou faux?
OK.
Et le quiz achève. Avant 2011 en Russie, la bière n'était pas considérée comme un alcool, mais comme une boisson gazeuse. Vrai ou faux?
Non, je veux dire faux.
Et c'est vrai!
Ah oui, hein? Ah ouais, hein?
C'est vrai parce que toutes les boissons, écoute ça comme faux, tu vas voir, toutes les boissons dont le taux d'alcool était inférieur à 10 % c'était considéré comme des boissons gazeuses ou des simples denrées alimentaires avant 2011 en Russie.
Ah ouais.
C'est seulement à partir de 2011 qu'on a qualifié que, même en bas de 10 % on pouvait considérer que c'est un alcool. Puis maintenant, la dernière question... On sait là quel pays est le plus gros producteur de bière. Maintenant, je te demande, quel pays est le plus gros consommateur de bière? Est-ce que c'est A, la Chine, comme le plus gros producteur, B, les États-Unis, C, l'Islande ou D, la République tchèque?
Alors, je dirais les États-Unis de loin.
C'est pas vrai.
Pas vrai, en vrai?
Non, le pays qui a le titre de plus gros consommateur de bière est la République tchèque.
Ah, oh, ouais, OK.
Oui, monsieur, avec plus de 188 litres par personne par année en moyenne, loin devant l'Autriche et la Pologne qui suivent en deuxième et troisième.
Fait que j'ai eu 10 bonnes réponses sur 17.
Sur 17, c'est très bon.
C'est pas si pire, là, je verrai, mais il y en a certaines qui m'ont échappé, puis c'était très intéressant, franchement.
Il y avait de la matière.
Il y avait de la matière, convaincu que les gens en ont appris pas mal. On clôt notre émission, peut contenir des infos sur ce quiz sur la bière. On vous remercie, mesdames, messieurs, d'avoir été là. Sébastien, on va passer une bonne semaine?
Absolument, puis déjà hâte de te retrouver. On va revenir encore avec là, ce sera ton quiz, mais plein de sujets fascinants pour la semaine prochaine, c'est garanti.
Salut, passez une bonne semaine. Merci d'avoir été là. Bye bye.